nous arrive pas mal souvent.
Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non. Moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais.
Non.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
Boulevard 102.1. On en a gros.
102.1.
Marceau le midi.
Marceau le midi.
All right.
C'était le point de presse du maire Marchand concernant le rapport de la Caisse de dépôt et de placement. Somme toute, pour lui, c'est extrêmement positif. Jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé du 15,4 milliards de dollars.
Non, l'argent n'est pas venu encore.
Il n'a pas parlé de la contingence qui n'avait pas été ajoutée à ce projet-là non plus. Il n'a pas parlé des coûts que ça pourrait engendrer pour les payeurs de taxes de la grande région de Québec. Ceux aussi qui paient pour l'immatriculation, parce qu'on va se le dire, on a eu un 10$ emblématique, mais ça pourrait monter jusqu'à 90$ là, selon les sources de la Ville de Québec. Donc, entre 60 et 90$, l'augmentation pour ces l'immatriculation. Ça, actuellement, depuis que j'écoute le point de presse du maire Marchand, il n'y en a pas jasé. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans les prochaines minutes, on sera en mesure de vous le dire, bien entendu.
Peut-être vous rappeler rapidement, donc 15, comme tu l'as dit, 15,4 milliards de dollars pour ce projet-là. On parle de quoi? On parle d'un tramway, d'un SRB et aussi de l'amélioration du réseau d'autobus. Donc, 100 km au total d'infrastructures pour le total de 15,4 milliards. 28 km sur ces 100-là vont être en tramway, 7 milliards de dollars. On va également mettre 30 km au total de SRB ici à Québec et Lévis, là, divisé, mais c'est un 30 km au total pour les deux villes. Et en plus de ça, il va y avoir un tunnel transport collectif entre les deux centres-villes, soit entre Québec et Lévis. Donc, c'est ce qui a été annoncé ce matin là, par la CDBQ Infra. En gros, c'est les grosses choses à savoir.
Merci. 13h18, Jess Caron de CA Québec est avec nous. C'est Jess ou Jessie? Salut, Jess.
Jessie.
Ouais, avec vous autres, ça peut être Jess, mais officiellement, c'est Jessie.
Mais c'est Jessie. C'est d'habitude, on est obligé il devrait avoir un Y quelque part. Qu'est-ce que tes parents t'ont fait comme cadeau?
Je suis né en Alberta. Ça s'écrivait avec un E en Alberta. Voilà. Mais heureusement, j'ai retraversé le Canada pour être avec vous.
T'as-tu grandi là-bas aussi?
Un petit peu. Pas assez pour dire que je suis un...
T'en souviens-tu?
Légèrement. 3-4 souvenirs par-ci, par-là. Là. Mais c'était... C'est... En fait, je l'ai redécouvert en allant 3 fois. J'ai fait 3 fois l'Ouest canadien là, depuis une dizaine d'années.
Ah, c'est cool, ça.
Okay, ouais.
Donc, t'es un Albertain de naissance.
Ben oui, bien, ça a l'air qu'ils prennent n'importe qui.
Ah oui! Pro-pétrole, Albertain de naissance.
Les stéréotypes.
Qu'est-ce que ça fait chez CA Québec?
Les gros stéréotypes.
T'es journaliste chez CA Québec?
Oui, mais oui, aux affaires publiques avec Max. Nous autres, on est là pour prêcher la bonne parole. Mais en fait, pour vous parler de tout ce qui se passe en automobile. Donc, effectivement. Puis moi, j'ai la chance d'être journaliste auto. Un autre chapeau. C'est pour ça que je peux prendre la place de Max. Il est trop en demande. Tout le monde l'aime.
Exact. Parle-moi de l'éco-randonnée que tu as fait avec l'Association des journalistes automobiles du Canada. Vous avez fait ça à quel endroit?
On est parti la semaine passée. On s'est tous rendus à Belleuil, donc au bord du Richelieu. Ça a impressionné pas mal les journalistes du reste du Canada. C'est quoi cette rivière-là? C'est quoi c'est derrière de maisons-là? effectivement, c'est un beau cadre, mais on est parti de là. Puis en 2 jours, on s'est rendu jusqu'à Trois-Rivières par les belles petites routes de la Montérégie. Soleil splendide, radieux. Le lendemain, on est allé jusque dans les cantons de l'Est. Une belle balade, mais le but, c'était d'essayer des véhicules éco-énergétiques. Le nom le dit un peu. Puis ça, l'éco-randonnée, là, c'est un défi qu'on se lance. On était 14 journalistes là, sur place pour essayer. Là, il y avait autant de voitures. Donc, on essaye les véhicules. Là où la gagnante part avec un maillot vert, donc une espèce de T-shirt vert. Cette année, c'est une fille qui l'a gagné. C'était en fait la seule journaliste féminine de l'événement. On a du chemin à faire un peu de temps en temps encore. C'est elle qui a gagné. Et donc...
Naturellement, vous avez fait exprès pour la faire gagner.
Oh non, je pense qu'elle s'est aidée pas mal.
Il y a quelqu'un qui a choisi sa phrase en me regardant.
Ça se peut. Hein? Non, en fait, elle a travaillé fort parce que cet événement-là, c'est pour montrer que si on conduit, pas nécessairement comme un petit vieux, là, mais si on conduit juste un peu plus doucement, on accélère plus graduellement, on se laisse décélérer, on anticipe les lumières, tout ça, on est capable, on suit les limites aussi.
Ouais.
On peut vraiment tirer le meilleur de l'économie d'essence ou d'énergie d'un véhicule.
C'est ça. La semaine dernière, j'étais avec un Tesla. Puis, je me souviens pas qui m'a expliqué le concept, mais moi, j'étais un conducteur de véhicule à essence. Donc, j'ai ma pédale pour l'essence, j'ai ma pédale à frein.
Ouais.
Mais avec la Tesla, il m'a dit, tu sais que si tu es capable de planifier d'avance, tu n'as même pas besoin de ton frein. Puis il avait raison.
Tout à fait.
J'ai réussi à sauver de l'énergie juste en... En fait, en ne touchant jamais à pédale de frein.
Exact. Tu te laisses aller, t'anticipes un peu sur l'autoroute, tu réduis le freinage régénératif. Ça, c'est ce qui te fait freiner, mais qui recharge la batterie. Mais tu veux pas freiner trop vite. Voilà. Tu veux te laisser aller. Dans les côtes, tu peux t'en servir davantage. Si je te disais, si je vous disais qu'avec un Lexus RX 450, un Lexus hybride rechargeable, j'ai réussi à consommer 4,3 litres au 100 km.
Quand
ça,
même.
C'est une consommation ridicule pour un véhicule de ce poids-là. En suivant les limites, puis c'est sûr que de temps en temps, à un moment donné, il y a un RAM avec un gros Cummins. Il nous a passé 2-3 véhicules de suite dans un nuage de boucan, si vous me passez l'expression. Mais j'ai aussi constaté le contraire. À un moment donné, sur une route à deux voies, moi, j'accélère bien pépère pour essayer de faire le mieux que je peux. Mais les gens restaient derrière moi. Il y avait toute la voie de gauche pour dépasser. Donc, ça dépend vraiment du tempérament. Mais dans cet événement-là, j'ai essayé notamment le véhicule que j'ai dit, le nouveau Santa Fe hybride. J'ai essayé la Lucid Air pure.
Ouais, je connaissais pas ce, ouais. Ce véhicule-là.
Lucid, ça, c'est un constructeur de véhicules électriques de la Californie. C'est des véhicules qu'on remarque, une silhouette très, très profilée, très effilée. Ça ressemble un peu à une Tesla, mais encore plus raffinée, si on veut. Mais ça coûte cher. Hein? On avait le modèle de base, qui était à peu près à 105 000 $ Un véhicule impressionnant, beaucoup de puissance. On se sent dans quelque chose de spécial. Mais en même temps, on se cogne la tête quand on rentre dedans. On a un gros pilier A, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc, c'est un véhicule qui est peut-être moins approprié pour nos conditions.
Ouais.
Mais il essaye là, de profiter de la manne des véhicules électriques. Donc, les cours en données, bientôt sur caquebec.com, un compte rendu de tout ça avec quelques trucs aussi pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur véhicule. Même s'ils consomment de l'essence, on n'est pas obligé de se garrocher sur un véhicule électrique. On peut le garder, mais si on réussit à faire baisser la facture et qu'on l'entretient bien, ça va coûter moins cher à long terme que de tout de suite se dépêcher d'acheter un véhicule parce qu'il est électrique, puis de mettre un bon modèle qu'on connaît bien au rencard, de le passer à quelqu'un d'autre.
Exact, exact. Hey, y a un bilan quand même assez positif à certains endroits là, pour ce qui est du bilan que la Société de l'assurance automobile du Québec a rendu public. Ça va mieux chez les motocyclistes ainsi que les piétons.
Oui, ça va mieux. De ce côté-là, ça n'avait pas été une bonne année en 2023. Il y avait eu une espèce d'accalmie durant la pandémie. Après ça, l'année passée, ça n'a pas été une bonne année. Beaucoup de décès médiatisés, d'accidents dont on a entendu parler. Pour les piétons, les cyclistes, c'est mieux. Donc, une baisse du nombre de blessures et de décès sur la route. Par contre, les automobilistes puis les gens qui conduisent des autos puis des camions, comme toi, comme moi, comme tout le monde, eux, ils ont goûté malheureusement un peu plus. Et c'est le deuxième pire bilan routier depuis 2013, depuis 10 ans.
Est-ce qu'on est capable de se l'expliquer pourquoi à certains endroits ça va mieux des années versus d'autres où ça va vraiment mal, comme les automobilistes que là, ils ont aggravé le bilan?
Bien, il y a une question de sensibilisation. Les gens comprennent peut-être un peu mieux à certains égards, mais en même temps, il y a des habitudes qui se sont perdues. Là, la pandémie, à un moment donné, les gens ont été moins sur la route. Là, ils sont revenus. On penserait que tout va bien, puis que les gens ont repris les bonnes, justement, les bons comportements. Mais visiblement, c'est une question de partage de la route, c'est une question de civilité, de courtoisie.
Que ça pourrait être une question de température? Parce que quand on parle avec les policiers, tu sais, nous, dans les médias, en fait, quand j'ai commencé dans les médias, moi, j'étais persuadé que les moments où les gens se plantaient, c'était des intempéries, les tempêtes et tout ça. Puis quand on jasait avec les gens qui sont en théâtre de guerre, les ambulanciers, les pompiers, les policiers, c'est quand il fait vraiment beau que les gens se plantent.
Ils ne soucient pas.
Plus il fait beau,
soleil,
moins, comme tu dis, exactement, moins on pense qu'il peut nous arriver quelque chose, plus on va accélérer, on va se laisser aller juste un peu plus vite, on va être moins prudent. Les motos reviennent. Des fois, c'est bon, les motocyclistes, c'est ça. Il y a toutes sortes de facteurs comme ça. Mais ce n'est pas les véhicules qui sont en cause parce que globalement, les modèles sont de plus en plus sécuritaires en cas pour permettre, premièrement, d'éviter des accidents. On en a tous essayé. Hein, plusieurs personnes qui nous écoutent aussi, des modèles qui nous lance des alertes visuelles, sonores, dont le volant va nous vibrer dans les mains aussi pour nous dire « Attention, il y a quelqu'un à côté, tasse-toi pas, reste dans ta voie. » Ou encore, bon, un freinage automatique d'urgence. Puis si jamais il y a un impact, il y a les coussins gonflables un peu partout, on sait, qui sont là. Donc, c'est
mais
pas...
Mais des fois, ça, là, je suis sûre que ça peut mener à des accidents. La technologie qui a été choisie pour nous faire freiner sans qu'on le souhaite, parce qu'eux ont utilisé avec leur capteur une distance X. Puis, écoute, là, moi, le nombre de fois que ça m'était... J'aimais pas ça. Okay, je vais le désactiver.
Tu sais quoi? Je viens de me rappeler avec qui j'avais eu cette discussion-là là, pour ce qui est du Tesla, là, que j'étais capable de pas toucher la pédale. C'est Samuel Tremblay-Michaud
qui
m'avait parlé de ça.
Automobile ici.
Puis, effectivement, lui, ce qu'il disait, c'est que pour les personnes qui achètent pour une première fois un véhicule électrique, il y aurait intérêt à prendre un cours avec le représentant de ce dit véhicule-là pendant une heure, deux heures pour voir comment le véhicule réagit dans certaines circonstances.
Honnêtement,
il y avait un très bon point.
Hybride que j'avais essayé, là, puis parce que quelqu'un que je connaissais l'avait, fait que je l'ai fait régulièrement, ça me choquait. Je suis tellement à l'aise derrière un volant. Je pense
que. Tu te contrôler, hein?
Je suis à l'aise derrière un volant, je sais que honnêtement, de façon humble, je suis capable de dire que je suis une bonne conductrice. S'il arrive quoi que ce soit, on m'a formée pour être capable de réagir.
Conduite défensive, c'est ça.
Mais ça, là, ça m'épuisait, là.
Moi, ce qui m'a marqué à chaque fois, c'est quand il essaie de corriger ta route.
Oui.
Tu sais, t'es bien relax, tout va bien, tout d'un coup, voyons, comment ça le char me propose d'arrêter prendre un café, tu sais? Ah ben, je suis pas très alerte, fait que là, je deviens un peu plus alerte. Puis là, après ça, je m'en vais comme un petit peu plus à gauche, là, je commence à coller la ligne, puis le véhicule se ramène.
Puis des fois, tu veux pas être
dans les roulières. On me l'avait pas expliqué, mais je me demandais ce qui se passait au départ.
Là, tu veux pas être dans les roulières, mais lui, il se dit, voyons, t'es donc bien désaxé de la route, ou encore, tu mets le cruise control, puis finalement, il fait juste vider toute ta batterie, parce que... Il s'adapte bien trop à ce que t'as en avant, ce que t'as en arrière. Il va freiner à pour vrai, là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, t'as le temps de freiner 6 fois. Où est-ce qu'il te fait freiner?
Il y a plein de monde partout qui disent qu'ils ont désactivé ça de leur
C'est ça que j'allais dire. On peut le faire, on peut les moduler, on peut les calibrer. Moi, personnellement, le régulateur de vitesse adaptatif qui ralentit, qui maintient la distance... Je les essaye parce que c'est ma job, mais je ne tripe pas là-dessus. Je les désactive, j'utilise le régulateur régulier, normal, si on veut. Mais tout ça, ce module, est-ce que ça peut causer des accidents? Peut-être, mais c'est prouvé, par contre, que freinage automatique d'urgence, les détecteurs d'angle mort, le régulateur de stabilité l'hiver qui peut nous aider si jamais on part en dérapage, il va freiner sélectivement pour nous ramener sur le droit chemin. Ça marche.
T'as-tu l'impression qu'il y en a qui ont perdu des réflexes, hommes comme femmes? Là, il y en a qui... devaient faire leur angle mort. Puis là, ben, avec les signaux lumineux sur les miroirs,
il se fie
sur les signaux lumineux, alors qu'il ne faut pas que tu te fies là-dessus.
La petite lumière orange.
T'as l'impression qu'on perd des réflexes avec la nouvelle technologie?
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Puis jumelé à ça, une des causes là, qui peuvent augmenter, il faut en revenir au bilan, on boucle la boucle, j'aime ça dans ce temps-là, mais ça peut être justement les tableaux de bord. Les tableaux de bord, maintenant, les systèmes multimédia qui causent beaucoup de distractions. Hein. C'est compliqué. Souvent, il n'y a plus de vrais boutons, il y a juste du tactile. Il faut aller fouiller dans 3-4 menus pour faire simplement syntoniser une station de radio. Des fois, c'est pas facile. Tu n'as plus de molette.
Je me sens très âgé.
Ouais. Jesse, tu laisses ça au 102.
Ouais, c'est ça.
Mais toi, est-ce que tu navigues très bien, ça, parce que tu en essaies beaucoup? Là.
Ouais.
Mettons la Tesla, c'est une pensée.
Ben, tu sais, là, je vais faire rentrer un peu dans ma vie. Là. Une fois que je suis sur la route, je suis correct avec n'importe quel engin. Okay?
Ouais.
Mais le bout où je rentre dans le véhicule, puis quand je pèse sur start, ça fait pas de bruit. Ouais. Dans ma tête à moi, ça fonctionne pas encore. Difficile.
Dans une Tesla, c'est comme la Lucide. Tu pèses même pas sur start. Tu t'assois, tu pèses sur le frein, le véhicule est en marche.
Mais ça doit pas être bon pour les gens qui sont hyper vigilants, tu sais, qui vérifient si la porte est fermée, mettons la porte de la maison là, est barrée 150 fois, puis qui peuvent se rendre à 3 coins de rue, virer de bord, revérifier si c'est barré. Imagine ça.
La Tesla, la semaine passée, j'étais dans le char, je me disais, j'aurais peut-être dû dire au gars finalement que j'étais pas correct. Là,
mais ça, c'est mon moment préféré du mois.
Parce que, tu sais...
Le moment où il s'est dit...
On est des hommes!
C'est ça. Le moment où il s'est dit que ça, c'était pas bon.
T'es-tu correct à ce char-là? Ben oui, donne-moi la clé, toi, t'as va-t'en.
Mais elle est pas
rendu dans le char, j'ai été capable d'ouvrir la porte, déjà un bon début. Rendu dans le char, je me dis, mais comment... Il est où le piton start?
Tu savais pas comment la brancher pour l'électrique aussi?
Non, ça, c'était une joke, là. Ça, c'était du cinéma. Juré. C'était du cinéma. Hey, un auditeur qui nous écrit, on va changer de sujet. Je baisse à 2,5 litres au 100 l'été avec mon Volvo XC60 T8 et la batterie n'a que 30 km d'autonomie.
Oui. Tout à fait. Bien, un hybride rechargeable, là, c'est vraiment, il faut la brancher le plus souvent possible. Il faut, c'est quand on roule en ville, quand on fait beaucoup de courtes distances qu'on en profite le plus. L'hiver, le moteur à essence souvent va démarrer pour venir donner un peu de chauffage, pour aider justement aux accélérations quand on entre sur l'autoroute. Ça va arriver pas mal plus souvent. Mais l'été, effectivement, on peut diminuer de beaucoup la consommation avec un modèle hybride rechargeable. Puis justement, ben c'est ce genre de modèle-là, oui, qu'on a essayé à la JAC. Puis il y a du monde qui vont partir avec des véhicules, là, comme on vient de dire, là, pour la première fois en vacances cet été. Hein. Puis là, ils vont se demander un peu, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment ça marche? Il faut prévoir. Puis il y a des choses simples qu'on peut faire justement pour peut-être venir faire diminuer la distraction qui peut éventuellement causer un accident ou des dispositifs qui vont nous surprendre. Ça se programme tout d'avance. D'ailleurs, Apple CarPlay, Android Auto, les interfaces qui sont dans les véhicules, on se prépare des listes de lecture d'avance, on regarde, on étudie notre tableau de bord. Ça a l'air niaiseux un peu. Puis c'était plus facile aussi. J'ai embarqué dans une Yaris 2007 l'autre fois. Manuel.
Avec les genoux dans le
les
front.
Les vitres, manuel, les vitres à poignée, comme on dit. On tourne la clé, mais je me suis ressenti comme j'avais 19 ans. Oh, c'était mon premier char, mais pour vrai.
Un tout petit t'sais. Char manuel. Ouais. Hey, t'es non, non. Jacques Villeneuve.
Elle avait 300 000 kilomètres. Non, mais tout ça pour dire que c'est plus ça aujourd'hui qu'on a. C'est des modèles qui sont plus compliqués. Alors, on prend le temps de se familiariser. On regarde aussi pour mettre du lave-glace avant de partir. Est-ce qu'on a des câbles de rechange? C'est-tu une prise USB-A ou USB-C?
Ça, c'est mon homme. Dans les c'est véhicules. Eux qui me font remplir mon coffre de voiture.
On
avec
l'a
tout
enfin
ce qu'il
trouvé.
Faut.
Jesse, on va lui poser la question. Là, le véhicule électrique, as-tu besoin de combat booster, Pascal?
Non.
Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Ça, c'était François Pérusse.
Skidoo, laisse ça dans le cours.
Oui, mais non, effectivement, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Puis on fait attention aussi, corridor de sécurité. Max en a parlé l'autre fois quand il est venu dans une de ses chroniques. J'ai encore vu quelqu'un qui ne l'a pas fait. Puis le travailleur s'est mis les mains.
C'est drôle à quel point on installe des billets dans la tête des auditeurs. Mmh. Parce qu'il y a deux auditeurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Yann, je le savais que c'est un règlement, tu sais. Le corridor de sécurité, ou en fait, aux États-Unis, ça s'appelle le move over là. Mm-hmm. Tu dois le faire si c'est possible. Mm-hmm. Donc, si jamais il y a un véhicule qui est à l'arrêt sur l'autoroute à ta droite, tu dois changer de voie à ta gauche pour lui laisser un corridor si c'est possible. Puis quand on jasait de ça avec Max, le lendemain, deux auditeurs m'ont dit, hey, je le remarquais même pas que les gens le faisaient pas. Mm-hmm. Puis là, je le remarque.
Fou, hein?
Ouais. Le plus possible, c'est quand tu changes un pneu. Côté conducteur, là, puis t'es sur l'autoroute, sérieux, tu t'en rends compte à quel point les gens, eux, se sentent confortables à 120 km/h, c'est à la voie de droite, là. Mais toi, quand le véhicule passe à 2 mètres de toi à 120, ouais. Tu te dis à chaque fois, je vais-tu revoir mes enfants?
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'avais une charge sur une remorque à un moment donné. J'étais obligé d'arrêter sur le bord de la 40. Je me suis tassé le plus possible. Mais j'avais hâte de. Tu sais, ça avait bougé un peu. J'avais hâte que ça soit bien fixé puis repartir, honnêtement. Là. Mais donc, c'est ça. L'été, c'est ce genre de choses-là qu'on peut faire. Quand on va sur l'eau aussi, il faut faire attention. Est-ce que les gens savent qu'on a besoin d'une carte de conducteur d'embarcation de plaisance, par exemple, à partir de 16 ans, puis on ne conduit pas de bateau en bas de 16 ans non plus? Il y a des règles différentes. Donc, c'est des trucs comme ça pour être sûr de bien se rendre puis de ne pas se faire prendre. Là.
Jesse, on va faire un tour sur CA Québec.
CAQuébec.com, tout est là. Des trucs aussi pour les balles de finissant, c'est pas compliqué. Un petit numéro de téléphone dans sa poche si on est mal pris, ça peut aider un proche, ça peut nous aider pas mal.
Merci beaucoup d'être passé.
De rien.
Salut, bye bye. Jesse Caron de CA Québec. Boulevard 102.1. Marceau.